Vous écoutez, on lit pour vous.
Les changements climatiques majeurs récents. Un texte de Amaël Landais, paru dans l'édition avril-juin 2023 du magazine La Recherche. Les données paléoclimatiques sont essentielles pour tester les modèles du système Terre utilisés pour prévoir l'évolution future du climat. La variation récente la plus grande est celle qui caractérise la transition entre le dernier maximum glaciaire, il y a 20 000 ans, et la période plus chaude actuelle qui prévaut depuis 10 000 ans. D'autres variations climatiques plus rapides et de grande ampleur ont été documentées qui illustrent le fonctionnement fortement non linéaire du système climatique. La période géologique dans laquelle nous vivons s'appelle le Quaternaire. Elle a débuté avec la glaciation du Groenland il y a plus de 2,5 millions d'années et, si elle n'a pas vu naître le genre Homo, elle l'a vu évoluer. Cette période géologique étant la plus récente, elle est aussi la mieux documentée et de nombreuses archives climatiques récoltées sur les continents, dans les océans et dans les calottes de glace, permettent de renseigner les variations climatiques des dernières centaines de milliers d'années. Des données qui sont essentielles pour tester les modèles du système Terre utilisés pour prévoir l'évolution future du climat et illustrent le fonctionnement fortement non linéaire du système climatique. Au cours du Quaternaire, une période courte sur l'échelle des temps géologiques, environ 4,6 milliards d'années, la position des continents a peu bougé. La Terre a conservé sa géographie actuelle, caractérisée par la présence de glace aux deux pôles, les calottes groenlandaises et antarctiques. Leur présence joue un rôle essentiel sur la dynamique climatique observée durant le Quaternaire. Le climat de cette période géologique est en effet rythmé par une alternance entre des phases froides, glaciaires, la dernière ayant culminé il y a 20 000 ans, et des phases chaudes, interglaciaires, comme celle dans laquelle nous vivons depuis 10 000 ans. Au cours des périodes glaciaires, de vastes calottes de glace se construisent progressivement et recouvrent, au bout de plusieurs dizaines de milliers d'années, les terres du nord de l'hémisphère nord correspondant à l'actuel Canada, calotte Laurentide, et à la Scandinavie, calotte Fennoscandienne. Puisque de larges quantités d'eau se trouvent stockées sous forme de glace, le niveau de l'océan est inférieur de 120 mètres par rapport à son niveau actuel, et la fraction de terre immergée, elle, est plus importante. La succession des variations glaciaires-interglaciaires des dernières centaines de milliers d'années se lie à travers de nombreux enregistrements sédimentaires. En particulier, les analyses effectuées sur les carottes de sédiments marins forés au fond des océans permettent de reconstruire l'évolution du niveau des océans et donc la taille des calottes de glace au cours des derniers millions d'années. Les périodes interglaciaires, associées à un minimum de volume des calottes de glace, sont plutôt courtes, 5 000 à 20 000 ans, et entrecoupées de périodes glaciaires plus longues, jusqu'à 100 000 ans, qui s'achèvent avec un maximum de volume des glaces avant la déglaciation. Les carottes de glace polaire documentent aussi la succession des cycles glaciaires et interglaciaires du point de vue de la température locale et de la concentration en gaz à effet de serre au cours des derniers 800 000 ans en Antarctique avec un parallélisme entre variations de concentration en CO2 et variations de température. Le rôle des rétroactions. Si le lien entre les conditions astronomiques et les variations glaciaires-interglaciaires est établi depuis les travaux du Serbe Milutin Milankovic 1879-1958, publié en 1941, il est de plus en plus évident que des rétroactions internes au système Terre sont essentielles pour décrire ces variations climatiques. Ces rétroactions mettent en jeu le cycle du carbone, le cycle de l'eau et notamment la taille des calottes de glace. Les déglaciations ont lieu pendant des maxima d'insolation d'été au nord de l'hémisphère nord. En effet, quand la position de la Terre par rapport au Soleil et son inclinaison par rapport au plan de l'écliptique sont telles que l'énergie reçue aux hautes latitudes de l'hémisphère nord atteint un maximum, les conditions sont réunies pour que la taille des calottes de glace commence à diminuer. Cependant, il n'y a pas de correspondance systématique entre les variations de la quantité d'insolation en été et les variations climatiques. Seulement 25 % des maxima d'insolation sont associés à des déglaciations et certaines déglaciations ont lieu alors que le maximum d'insolation est de faible amplitude, par exemple autour de 420 000 ans avant aujourd'hui. De plus, la périodicité des cycles glaciaires interglaciaires a varié entre il y a 1,2 et 0,8 millions d'années, d'une période de 41 000 ans à une période de 100 000 ans, alors que le forçage astronomique est resté le même. La compréhension de cette transition, appelée transition du mi-pléistocène, est l'objet de nombreuses recherches et motive l'obtention et l'étude d'archives glaciaires et marines à haute résolution sur le dernier million et demi d'années. C'est à cela que travaille, par exemple, le projet Beyond EPISA. Si le forçage astronomique ne suffit pas à expliquer seul ces variations climatiques, l'influence de la taille des calottes de glace, de l'étendue de la glace de mer et de la concentration atmosphérique en CO2 est primordiale. L'augmentation de la concentration en CO2 qui arrive tôt pendant les déglaciations, sans doute en lien avec des modifications de circulation océanique, au niveau de l'océan austral, est ainsi indispensable pour expliquer l'amplitude des déglaciations. De même, il semble que les déglaciations ont généralement lieu quand le volume des calottes de glace a atteint une certaine taille et donc une certaine latitude sud, au-delà de laquelle elle ne peut plus grossir car les températures sont trop élevées. Cette taille critique semble plus importante pour les cycles glaciaires interglaciaires récents, derniers 400 000 ans, que pour les plus anciens. Les transitions glaciaires-interglaciaires sont des variations climatiques lentes associées au temps de réponse des calottes de glace. Ainsi, on estime que la dernière déglaciation s'est étalée entre 19 000 ans et 11 000 ans avant aujourd'hui. Superposée à cette dynamique climatique lente, il existe une variabilité climatique bien plus rapide à l'échelle décennale à multicentennale, qui a ponctué la dernière période glaciaire et probablement les périodes glaciaires précédentes. Elle a été mise en évidence par les analyses des carottes de glace qui permettent d'obtenir une haute résolution temporelle. Deux types de variabilité. Cette variabilité climatique rapide a été repérée pour la première fois dans les glaces du Groenland dans les années 1980. Elle se présente comme une succession de 25 événements appelés événements de Damsgaard-Ødegaard. Chacun de ces derniers est caractérisé par un réchauffement abrupt de 10 à 15 degrés centigrades en une ou plusieurs décennies, suivi d'une période relativement chaude de quelques dizaines ou centaines d'années, interstade, puis d'un refroidissement vers une période froide, stade, de quelques centaines d'années. Cette variabilité rapide a ensuite été mise en évidence par des mesures de traceurs géochimiques des comptages de coquilles fossiles ou des comptages de pollen dans de nombreuses archives continentales et marines de l'hémisphère nord. La végétation de l'Europe de l'Ouest est ainsi caractérisée par un couvert de forêts pendant les interstades et par des espèces semi-désertiques, armoises, chénopodes, etc., pendant les stades. Les zones de fortes précipitations, mousson, des tropiques, quant à elles, sont déplacées vers le sud lors de la transition entre interstade et stade. En Antarctique, ces événements sont visibles aussi, mais en opposition de phase par rapport à ce qui se passe au Groenland. La température antarctique augmente pendant les stades et diminue durant les interstades, ce qui conduit à parler de phénomène de balance bipolaire. En parallèle, les sédiments marins révèlent, pendant certains stades, des couches de grains de taille grossière dont l'origine est attribuée à des débâcles d'icebergs à partir de la calotte couvrant le nord de l'Amérique du Nord. Tous ces indices montrent que ces événements climatiques sont globaux et impliquent des modifications internes de la répartition de chaleur à la surface de la Terre, de la circulation océanique et de la circulation atmosphérique en lien avec la dynamique des calottes de glace. La majorité des travaux actuels conclut que ces événements majeurs ne sont pas liés à des forçages externes, volcanisme, forçage solaire, mais plutôt au caractère instable du climat en période glaciaire. L'étude des variations climatiques du quaternaire met ainsi en évidence les processus associés au changement climatique sur des échelles de temps courtes, événements de Damsgaard-Oeschger, et longues, transitions glaciaires-interglaciaires. Ces deux types de variabilité font intervenir les différents compartiments du système Terre, océan, atmosphère, cryosphère, biosphère, ainsi que des rétroactions internes liées au cycle de l'eau et au cycle du carbone. L'un des grands défis est désormais de réussir à modéliser ces grands événements climatiques du passé et de les reproduire avec les modèles de système Terre utilisés par les scientifiques du GIEC pour leurs prédictions sur l'évolution du climat dans le futur. C'était « Les changements climatiques majeurs récents », un texte de Amaël Landais, paru dans l'édition avril-juin 2023 du magazine La Recherche.
Les libraires craquent, littérature de l'imaginaire, quatre suggestions de lecture des libraires indépendants, parues le 6 décembre 2023 dans la revue Les Libraires. 1. Le pacte de minuit, C.L. Polk, VLB éditeur. Dans cette société inspirée de la Régence anglaise, la magie existe et peut se pratiquer au grand jour. Du moins, pour les hommes. Les femmes, elles, ont l'interdiction d'y toucher tant qu'elles sont en âge d'être enceintes, par crainte des conséquences désastreuses sur leurs éventuels enfants à naître. C'est dans ce contexte que la jeune Béatrice Claiborne tente d'échapper à un potentiel mariage arrangé afin de pouvoir pratiquer sa magie librement. Tout se complique, évidemment, lorsqu'elle rencontre l'amour. Un roman young adult, aussi charmant qu'efficace, et au féminisme revendiqué. La question centrale demeure : est-ce possible de vivre une histoire d'amour saine dans une société au fonctionnement injuste pour les femmes ? Par Marie Labrousse, Librairie L'Exèdre, Trois-Rivières. 2. La machine à aimer. Lou Yan, FLBLB. Imaginez un monde où l'intelligence artificielle est devenue si avancée que les humains, effrayés, décident de supprimer tout robot jugé trop intelligent. Nobod, qui réchappe de justesse à ce cybergénocide, tente de survivre dans un monde qui souhaite sa disparition définitive. Mais comment faire quand vous êtes programmé pour aimer ceux qui cherchent votre mort et pour leur pardonner leurs actes les plus odieux à votre encontre? Ce roman, qui mélange brillamment utopie et dystopie, est élaboré tout en finesse. À travers une intrigue à la construction atypique, on traite de thèmes presque éculés, la technologie, l'amour, mais d'une manière aussi originale que captivante. Une lecture troublante où la réflexion se marie à l'émotion. Par Marie Labrousse, Librairie L'Exèdre, Trois-Rivières. 3. La société très secrète des sorcières extraordinaires, Sangu Mandana, l'humaine. Mika Moon a passé sa vie à suivre, plus ou moins, les règles des sorcières, faire profil bas, elle fait juste semblant d'être une sorcière dans ses vidéos, et éviter tout contact avec d'autres sorcières, sauf bien sûr lors de la réunion trimestrielle. Sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'on l'engage pour être la tutrice de trois jeunes sorcières. Malgré le fait que cela brise toutes les règles, Mika se lance dans cette aventure et trouve, à la maison de nulle part, plus que ce qu'elle s'y attendait. Ce roman feel-good allie famille, magie et romance avec ses personnages tout aussi attachants qu'imparfaits. Grâce à sa plume décontractée et pleine d'humour, l'auteur crée un monde chaleureux où il fait bon de prendre son temps. Par Mylène Cloutier, Librairie Le Fureteur, Saint-Lambert. 4. Quand la tigresse descendit de la montagne, Ngivo, Alissa Winan, Atalante. Ngivo semble prendre un malin plaisir à mélanger la matière des contes traditionnels asiatiques avec une fantasy fluidifiant les genres. Accompagnant en cela Becky Chambers, aussi à l'aise qu'elle, dans la forme très courte, elle nous offre chaque fois de petits joyaux étincelants d'intelligence et d'espièglerie. Dans ce deuxième volet des archives des collines chantantes, on suit les efforts de l'Adelphe Chi, qui, prisonnière de trois tristes tigres ou tigresses, tâche de raconter une histoire de la bonne façon, en ménageant les sensibilités potentiellement mortelles de son public aux crocs acérés. Clin d'œil certes aux mille et une nuits, mais aussi jeu méta sur la façon dont les histoires fluctuent au gré des caprices des vainqueurs. Par Thomas Dupont-Buy, Librairie Gallimard. C'était Les libraires craquent, littérature de l'imaginaire, 4 suggestions de lecture des libraires indépendants, parues le 6 décembre 2023 dans la revue Les Libraires.
De fabricants d'armes à démineurs, un texte de Magdalene Boutros, paru le 26 janvier 2024 dans Le Devoir. Il y a des histoires inspirantes qui redonnent espoir, comme celle de Vito Alfieri Fontana. À la suite d'une saisissante conversion, ce fabricant italien de mines antipersonnelles est devenu démineur. Je devais faire quelque chose pour essayer de réparer le tort que j'avais commis, explique-t-il au Devoir. Jusqu'à sa fermeture en 1993, l'entreprise familiale Technovar, que Vito Alfieri Fontana a dirigée pendant de nombreuses années, a fabriqué, entre autres, 1,3 million de mines anti-chars et 1,5 million de mines antipersonnelles. Des armes perverses qui mutilent et tuent bien après la fin des guerres. Ce type de production était très rentable, indique l'ex-fabricant d'armes Paris-Cri. L'usine appartenait, à l'origine, à mon père, qui a commencé à travailler dans ce domaine au début des années 1960. Jusqu'en 1977, Technovar fournissait des mines à l'armée italienne. Puis, en 1978, l'entreprise de la région de Bari, dans le sud de l'Italie, a commencé à vendre des mines et des composants de mines à d'autres pays, principalement à l'Égypte. Je présume que nos mines ont été utilisées dans toutes les guerres dans lesquelles le gouvernement égyptien, selon sa politique étrangère, a été directement ou indirectement engagé, spécifie-t-il en citant notamment l'implication de l'Égypte dans la guerre Iran-Irak et l'assistance fournie aux talibans contre l'invasion soviétique dans les années 1980. Prise de conscience. C'est lorsque son fils, alors âgé de 8 ans, a commencé à lui poser des questions sur son travail que Vito Alfieri Fontana a amorcé une foudroyante prise de conscience. « Papa, je sais que beaucoup de personnes fabriquent des armes, mais pourquoi toi? Est-ce que tu es un tueur ?» lui avait lancé le garçon. Puis, dans une assemblée, un jeune homme lui a demandé à quoi il rêvait la nuit. Qu'une autre guerre éclate pour que vous puissiez produire plus de mines et faire encore plus d'argent? Un deuxième terrible coup qui a fait progresser sa réflexion. À l'époque, l'homme avait aussi été contacté par la campagne internationale pour interdire les mines et par le mouvement catholique Pax Christi. Ils m'ont poussé à prendre une décision face à ce que vivaient les victimes. Les mines sèment avant tout la terreur parmi les civils, rappelle-t-il. J'ai compris que 90% des victimes des mines étaient des civils et non des militaires. Une fois que l'on a compris cela, c'est la honte. Fermer l'entreprise familiale n'était toutefois pas suffisant pour Vito Alfieri Fontana, qui a décidé d'agir directement sur le terrain pour tenter de se racheter. À la fin des années 1990, le fabricant d'armes, désormais repentant, s'est engagé auprès d'organisations internationales en devenant démineur dans les Balkans. J'ai travaillé comme directeur sur le terrain pour plusieurs équipes de déminage de 1999 à 2016, explique-t-il. C'était un travail difficile. Dans le livre « Ero l'uomo della guerra », qui veut dire « J'étais l'homme de la guerre », que Vito Alfieri Fontana, aujourd'hui âgé de 72 ans, a récemment publié en Italie aux éditions La Terza, en collaboration avec le journaliste Antonio Sanfrancesco, l'ex-homme d'affaires résume ainsi sa vie. J'ai conçu, fabriqué et vendu 2,5 millions de mines antipersonnelles. J'en ai retiré des milliers pendant près de 20 ans, tout au long de la crête minée des Balkans, du Kosovo à la Serbie, en passant par la Bosnie, en restaurant des maisons, des écoles, des usines, des terres agricoles, des aqueducs et des gares. Ces chiffres résument symboliquement les deux vies que j'ai vécues. D'un point de vue numérique, le bilan est inégal, du point de vue de ma conscience aussi, car le mal commis demeure, à jamais. Bannissement des mines antipersonnelles. La conversion de Vito Alfieri Fontana l'a aussi amené à militer pour le bannissement des mines antipersonnelles. En 1997, quelques années après avoir fermé son entreprise, il a été invité par la campagne internationale pour interdire les mines à participer à la conférence d'Oslo. À cette occasion, les articles de la Convention d'Ottawa ont été rédigés et j'ai apporté mon aide pour préciser et clarifier les questions techniques, souligne-t-il. La Convention d'Ottawa, officiellement appelée « Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert de mines antipersonnelles et sur leur destruction », bannit l'utilisation, le stockage et le transfert des mines, et appelle à leur destruction. À ce jour, 164 pays ont signé le texte. Ce fut une grande réussite, estime Vito Alfieri Fontana. Même si les plus grands producteurs de mines n'ont pas signé ce traité, il est certain qu'ils ont cessé de développer de nouveaux types de mines. Sans nouvelles surprises sur le terrain, les démineurs peuvent améliorer année après année la rapidité des opérations de déminage. Dans les mois qui ont suivi, la campagne internationale pour interdire les mines a remporté le prix Nobel de la paix. De fabricant d'armes à démineur, Vito Alfieri Fontana a ainsi contribué par une transformation à hauteur d'homme à une avancée marquante pour l'humanité. Conçu pour mutiler. Les mines antipersonnelles, utilisées pour la première fois à grande échelle pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont été mises à profit dans plusieurs affrontements armés, dont la guerre du Vietnam, la guerre de Corée et la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Peu coûteuses, elles ont été originellement conçues pour mutiler plutôt que tuer. Puisque soigner un blessé mobilise davantage de ressources sur un champ de bataille, le largage des mines peut aujourd'hui se faire par les airs, ce qui rend leur cartographie beaucoup plus difficile. En 2022, 4710 victimes de mines ont été répertoriées dans le monde. Parmi elles, 1661 ont été tuées, révèle l'Observatoire des mines lié à la campagne internationale pour interdire les mines. Les civils représentaient en 2022 85% des victimes et les enfants la moitié des victimes civiles. C'est en Syrie que le plus grand nombre de victimes a été enregistré en 2022, suivi de l'Ukraine, du Yémen et du Myanmar. Les pays qui produisent encore aujourd'hui des mines antipersonnelles sont l'Arménie, la Chine, Cuba, l'Inde, l'Iran, le Myanmar, la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Pakistan, la Russie, Singapour et le Vietnam. C'était De fabricants d'armes à démineurs, un texte de Magdalene Boutros, paru le 26 janvier 2024 dans Le Devoir.